puis je vais rappeler Camilla et Christophe. Et on va prendre les questions. Si vous avez des questions pour l'un des trois, oui.
D'entrer en communication avec quelqu'un dans ces hôpitaux-là. Alors, je me demandais pourquoi, ce sont des jeunes, ce sont des garçons, c'est une très grosse problématique actuellement au Québec et partout dans le monde. Alors, pourquoi ne pas les avoir inclus aussi dans notre recherche, ça aurait été intéressant pour les parents et tout le monde, toute la collectivité. Et je pense qu'il n'y a pas grand-chose pour eux.
Parce qu'il y a sûrement une raison pour ne pas partir à 25 ans. Non, on n'est pas parti à 25 ans. C'était ce qu'on a donné, c'est l'information. C'était ouais, les variations d'âge. Mais il y a des gens qui étaient plus jeunes que 25 ans. Je pense qu'au niveau éthique, on était tenu de limiter à 18 ans. Il faudrait que j'en vérifie. Mais je pense qu'au niveau éthique, quand on participe à une étude de ce genre-là, pour que la personne puisse donner son consentement, il faut qu'elle soit majeure.
Mais éventuellement, les sites web, c'est très intéressant que je sois plus connu, puis que nous puissions connaître les gens, puis que ces gens-là participent. Parce que déjà, 17 ans, on s'en occupe.
Le problème.
Les gens sont laissés à eux-mêmes, et souvent, les policiers n'ont pas obligatoire jusqu'à 18 ans. Donc, on les perd, là, entre 17 et 25 ans. D'accord? Alors, c'est juste une
Ah, vous avez raison. C'est clair que les services pour les gens qui souffrent de troubles anxieux sont inadéquats dans le système public et privé aussi. On a vu qu'il y a plein de gens qui disent « je suis expert en anxiété, mais ils ne comprennent pas les troubles anxieux ». C'est un des problèmes avec le web, c'est qu'il n'y a pas de contrôle. Donc, il y a des avantages, comme on a entendu de Christophe, il y a aussi des désavantages. Donc, la manque de régulation, la manque de contrôle, fait que c'est un free-for-all. Mais en même temps, je peux aller chercher de l'information qui va changer ma vie d'une façon positive, ou je peux aller échanger avec des gens de toutes sortes qui vont me décourager tout le reste. Moi, je réfère des gens au groupe d'entraide et je dis toujours la même chose. Je dis, ça peut vous aider, ça peut pas vous aider. Ça dépend quel groupe, quelle personne et tout ça. Je les encourage d'aller essayer. Parce que la réalité, c'est que une ou deux personnes de plus ou de moins, ça change la mentalité. Ce que Michel avait noté dans le Facebook est très intéressant. Quand moi, je traitais des troubles anxieux, il y avait souvent, à la fin, les gens qui se réunissaient et développaient des « bon, on va aller au centre d'achat ensemble et tout le reste pour s'encourager ». Et c'est bien. Le problème, c'est que de temps en temps, quand on commence à être dépendant sur quelqu'un pour faire des sorties, au lieu de voir ça comme une étape, ils vont freiner là et vont simplement avoir des gens avec qui ils peuvent faire de l'évitement ensemble. En même temps, d'avoir quelqu'un qui nous encourage, nous pousse dans une bonne direction ou ça peut nous freiner. Et c'est ça le problème avec Facebook, avec toutes les tendances de se réunir, c'est que les gens vont des fois partager un message positif ou des fois ils vont partager d'autres messages, il n'y a pas de contrôle. C'est pour cette raison qu'on vise des choses comme le Hound Code qu'on a sur plusieurs de nos blogs, etc. Parce qu'au moins on peut dire, OK, voilà. Mais les groupes d'entraide, c'est toute une autre affaire. C'est quelque chose que j'encourage parce que je vois l'importance, mais en même temps, je m'inquiète pour le manque de contrôle à cause de...
Une autre question?
C'est sur le même point. En fait, quand vous dites que sur Facebook, en fait, les gens se réunissent, qu'il n'y a pas de contrôle dans le fond, c'est toutes sortes d'informations qu'on trouve. Michel, tu disais, bon, les groupes qui ont été créés après vos formations, est-ce que tu as l'intention de... coacher quelqu'un de chacun des programmes pour qu'il intervienne dans ces groupes-là? Ou,
mais c'est l'esprit, dans le fond, ce que Cam vient de soulever, quand on dit free for all, quand on parle des obstacles, c'est ça qui a motivé la démarche au départ. Mais si c'est, disons, si on n'a pas de qualité là, assurée sur l'Internet, on n'en a pas plus dans les échanges qui se passent à l'extérieur de l'Internet. Alors, il y a plein de trucs, puis même, on a cité quelques commentaires des gens qui se plaignaient même de professionnels certifiés. Et puis nous, on en a eu... C'est sûr, on est dans un groupe de soutien où généralement, ce sont des gens qui n'ont pas obtenu les services s'ils avaient eu plein de succès puis l'accès facile dans les services classiques comme ceux qu'on offre, ils n'auraient pas nécessairement à se retrouver dans ces milieux-là pour échanger puis soutenir.
Et que les aidants donc, aussi soient impliqués. C'est pourquoi qu'un jeune a 18 ans, que la famille n'est pas impliquée, qu'il y a des dommages collatéraux qui suivent souvent après. Puis je pense que c'est une urgence actuellement au Québec. Puis je regrette, mais les résultats de votre recherche sont effectivement ça.
Donc, puis on a, dans nos 714, on avait quand même, combien, 40 proches qui ont 61 proches qui ont répondu. On a ouvert.
Ça a été publicisé pour les jeunes de 18 à 25 ans. C'est important, cette case-là. Très important.
L'étude était ouverte.
Oui, je comprends, mais moi, je n'ai pas été au courant. Comment, c'est pour vous chercher la façon.
C'était un des partenaires là-dedans qui ont aidé à recruter du monde, c'était Phobie Zero, qui a des groupes partout, incluant Voilà Jeunesse. Je sais,
c'est juste. Madame, on a très bien saisi, je pense, votre point. Anne, tu disais de s'assurer pour le suivi.
Mais est-ce que tu comptes forcément former les
oui, oui, intervenants dans oui, ce oui, oui, les gens, là, qui ont, ceux qu'on vient de consulter, c'est des gens qui ont été formés, les pères aidants, qui ont été formés avec, c'est une des étudiantes de doctorat que je suppose qui a travaillé sur les manuels. CAM faisait partie du suivi. On a des gens de Louis H. Lafontaine, du Douglas, qui font l'encadrement. Et on a participé à la formation. Et là, ce qu'on examine, c'est comment on peut s'assurer aussi de la qualité de l'intervention de ces pères aidants-là à long terme. Et c'est là que peut-être ça devient un outil qui peut nous assurer de maintenir le contact et aussi maintenir une présence, mais sans nécessairement. Et puis, ces groupes-là, là, tu sais, il y en a un peu partout dans le Québec. On ne peut pas être partout. Et donc, d'assurer une présence, même avec les endroits où il y a une plus grande difficulté d'accès vers des services spécialisés.
Une des choses que je pense qu'il faut ajouter, c'est que souvent, quand on voit sur les sites web, ça donne malheureusement un faux espoir aux gens qui peuvent aller chercher de l'aide. Parce qu'on dit, voici l'aide que vous avez besoin, voici qu'est-ce qu'il y en a, quelle forme d'aide, quelle forme de thérapie est valide et tout ça. Mais suite à ça, les gens vont dire, OK, où est-ce que je vais aller la chercher? Et les services que nous avons, que tous les hôpitaux ont, sont très limités à leur secteur, etc., avec plein de contrôles là-dessus. Et c'est ça qui est décevant, parce que on veut donner l'information, mais en même temps, on veut que les gens soient capables d'aller chercher ce qu'ils ont besoin. Alors, on veut contribuer à l'éducation, mais c'est malheureusement, il y a des lacunes dans le système qui nous cause, moi, ça me cause des inquiétudes, malheureusement.
En tout cas, juste une dernière chose, c'est que je ne sais pas si l'Internet sera une des solutions, ou du moins si ça va améliorer les choses au niveau du système de santé, là. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est qu'il y avait une recherche qui a été faite sur les groupes de discussion sur Facebook. Et les gens disaient majoritairement, en fait, qu'ils souhaiteraient que les professionnels de santé mentale s'impliquent davantage dans ces groupes sur Facebook. Donc, peut-être que ce serait une issue, quelque chose à essayer, en tout cas.
Il y avait une question, oui?
Je pense que ma question va dans le même sens. Il y avait des groupes d'entraide avant Internet. Et donc, avec Internet, est-ce qu'il y a des économies qui s'introduisent? Avez-vous essayé d'analyser l'efficacité de cette approche par rapport à des approches qui existaient avant?
Dans notre cas, je dois vous dire qu'on apprend étape par étape. On n'a pas de point de comparaison. Il y avait déjà des groupes, puis je travaille avec des groupes en toxicomanie puis en psychiatrie. Dans quelle mesure l'Internet est en train de changer ça? On voit que ça devient un outil que les gens utilisent. Même nous, dans les groupes qu'on a consultés, beaucoup de gens s'étaient auto-diagnostiqués en allant sur l'Internet pour des troubles anxieux. Même il y en a une qui nous expliquait qu'elle avait imprimé son diagnostic, qu'elle avait amené à son omnipraticien pour lui expliquer ce qu'elle avait. Puis elle avait dit, ah, c'est vrai, c'est ça que vous avez. Donc là, elle avait eu son diagnostic. Et moi, je sens cette dynamique-là où les gens ont accès à de l'information qui va bien au-delà de où aller chercher quelle aide. Mais ça, je pense, si on parle d'impact, je pense qu'il y a beaucoup cette dynamique-là qui est en train de se créer.
La question est juste par rapport aux moyens que ça implique. Là, vous avez fonctionné avec Internet. Vous avez mis en place certains moyens de support. Donc, c'est plus, qu'est-ce que ça implique d'un point de vue logistique ou professionnel?
Oui, ben nous, oui, ça c'est, excusez, j'avais mal saisi, mais ça veut dire faire quelque chose à long terme. Ça veut dire faire quelque chose qu'on doit investir continuellement. Si on veut être présent sur Facebook, c'est pas un one-shot. Et les grosses boîtes, le système de santé, regardez ça dans l'angle que vous voudrez, on n'est pas très bon pour faire des suivis à long terme. Que ce soit suivi d'une maladie, que ce soit suivi d'un projet, on est bon pour faire des choses, avoir des bonnes idées, mais faire le suivi, être continuellement présent, ça, c'est pas notre force. Et si on s'engage dans cette voie-là, ça veut dire qu'il faut prévoir l'énergie, la présence, puis ça se multiplie, là. On a de la difficulté à prévoir dans quelle mesure on va devoir être présent si on joue le jeu. Et si on ne joue pas, le jeu se joue de toute façon, et sans notre présence.
Les groupes d'entraide, self-help groups, je vais répondre en anglais, a little easier for me. Certainly, everyone recommends self-help groups. We say they're great, they're useful, AA, and so on. There really isn't a lot of research to show that it is effective, except for a few of them. So we still refer people to self-help groups, and we hope that they work. And we also hope that everything we do on the web, such as discussion groups and so on, will help. But what is missing in all of these public education initiatives is the evaluation of its effectiveness and so on. At this point, we're just looking at what exactly do we have to offer, what are your needs, and then once we have the needs, we can say, okay, now can we develop those programs, and then the question is, are they responding to the need in a positive way? So we're really at the beginning of this process, and it's hard to tell. The feeling is people like it. Obviously, they come back, so they feel as if it's useful. But the question is, clinically, in terms of symptoms and in terms of usage of other treatments, is it reducing that? Is it having a positive impact? We still don't know. We do know, for example, that in stigma research, events that talk about stigma don't seem to really reduce stigma very much. What does seem to reduce stigma is interacting with people who have an illness. So it's in that sense that we also encourage people to talk about their personal experiences. The more people do, the more open we are to discussing our own difficulties and others with colleagues and friends and so on, and that's what contributes to reduction of stigma. But don't know how to really answer that question because there isn't research to do it.
On a le temps. Une autre question? Oui?
Se cachent derrière ces programmes d'Internet, puis c'est dans le fond leur sphère sociale qu'ils font. Ils ne poussent pas pour aller voir une personne ailleurs parce qu'ils sont confortables dans leur chambre.
C'est sûr que ça brise l'isolement pour quelqu'un qui est très gêné. L'anxiété sociale, un des empêchements pour les traitements, c'est que souvent le traitement, c'est un traitement de groupe. Parce qu'un traitement de groupe, c'est pour faire face aux autres, pratiquer les interactions et tout ça. Par contre, c'est ce qui est le plus menaçant au début du traitement. Et je pense que dans les 71, probablement un bon pourcentage sont des gens avec une phobie sociale qui savaient que c'était une intervention de groupe. Donc, le déplacement et de faire face à la première étape est difficile. C'est sûr que ces gens-là vont se cacher derrière l'Internet. Comme toutes les autres réactions à l'anxiété, si ça devient une forme d'évitement continuel, c'est pas productif. Si c'est une façon d'ouvrir la porte et au moins d'avoir l'information, être en contact pour suivre la prochaine étape et faire des contacts physiques, c'est une excellente première étape. Un peu comme d'aller avec quelqu'un au centre d'achat, c'est pas une mauvaise chose. C'est si on fait rien après que ça devienne un problème. Moi, c'est sûr que dans tous les problèmes qui ont un élément d'anxiété, par exemple, la sexualité est très, très difficile pour les gens d'en parler, d'aller voir le médecin, écoute, j'ai un problème avec X, Y, Z. Donc, souvent, la bibliothérapie ou l'Internet, les questionnaires sur l'Internet sont plus faciles. Les gens sont plus capables de remplir honnêtement et répondre honnêtement, avoir de l'information précise. Donc, il y a un avantage de ça, mais évidemment, après ça, il faut les amener au prochain étape.
Mais c'est là qu'on doit être présent.
Oui.
Si je prends l'exemple juste des quatre groupes dont Michel a parlé tout à l'heure, il y a beaucoup de gens qu'on a rencontrés qui nous disaient qu'avant ce groupe-là, certains se connaissaient de forums Internet où il y avait une discussion sur les symptômes. Donc, pour certains, comme Dr Zakia disait, c'est une amorce. Ça leur a permis d'assister à ces traitements-là ensuite qui ont été donnés par les parents. Donc, je pense que ça, c'est...
Il faut dire que le forum de discussion sur le site de Phobie Zero, qui est un site assez populaire, au CA, ils ont décidé à un moment donné de l'arrêter complètement. Parce que le problème avec des forums, des groupes de discussion, c'est que ça prend quelqu'un qui va modérer. Moi, je modère mes commentaires sur le blog, j'ai pas beaucoup, c'est facile, mais il faut quand même faire attention. Et dans aller sur YouTube, sur n'importe quelle vidéo, vous allez voir les commentaires sont souvent extrêmement négatifs, plein de hatred and just. C'est quelque chose que je pense qu'on devrait éliminer complètement. Alors, un forum de discussion, ça prend quelqu'un pour modérer ça et s'assurer que l'information est valide. Et de temps en temps, on va prendre quelque chose comme un blog, on va commenter sur quelque chose et ajuster ou changer les données et clarifier certains points si c'est un article dans le journal ou ailleurs. Mais quand c'est le forum, c'est tellement rapide. Et sans un modérateur, pour filtrer ça, c'est très difficile. Donc, ils ont décidé d'arrêter ça tant qu'il n'y avait pas quelqu'un qui était disponible de le faire.
Il y avait une autre question, monsieur.
Vous avez dit que vous avez été sur Internet et puis bon, il y avait pas du tout pour l'application web. Puis quelques temps après, on s'en fait. On va savoir ce que vous avez regardé, ce que c'était.
Donc, je suis encore sous le choc. Là. Mais, non, parce que en fait, je regardais ça par pur hasard et par curiosité. Mais c'était des applications sur les iPads, en fait, la semaine dernière. Et j'avais regardé, c'est des applications qui sont les mêmes, en fait, que celles de l'iPhone. J'avais eu la même curiosité il y a quelques mois. Et j'avais trouvé qu'il n'y avait pas grand-chose, parce que je dois avouer qu'avec Alain Brunet, on a un site qui s'appelle Infotrauma, et puis on projetait de faire une application web de ce site, en fait. Une application web, une application pour iPad. Et je suis surpris que, en fait, pendant 3 mois, pendant que j'y pensais plus, tous les collègues avaient déjà travaillé. Donc, et c'était intéressant de voir aussi que il y avait tout et n'importe quoi. Donc, ça va de l'université très prestigieuse, des applications Stanford et compagnie, et à des personnes qui sont ni psychologues, ni psychiatres, et qui, en fait, on ne sait pas trop ce qu'ils sont, à part psychothérapeutes et encore, et qui vendent un produit, en fait, leur thérapie sur ces applications-là. Donc, là aussi, il y a zéro contrôle. Donc, j'ai vu des choses assez effrayantes, puis des choses de grande qualité. J'imagine que dans 3 mois, là, on va passer aux milliers d'applications, en fait. Et j'ose à peine imaginer dans 2 ans. Donc, comme disait Michel, je crois, c'est un train qui en marche, puis on essaie de le prendre, en fait. Mais je pense que c'est le reflet, en fait, de ce qu'est l'Internet. C'est-à-dire que comme il n'y a pas de contrôle, il y a des choses très bien, puis il y a des choses beaucoup moins bien.
Merci beaucoup. On va devoir s'arrêter là, malheureusement, à cause du temps. Je voudrais remercier nos 4 conférenciers. Et si vous êtes intéressés à retrouver les éléments de ces présentations, elles seront sur le site de McGill. Elles seront aussi annoncées via le portail Internet et Santé, donc internetsanté.ucam.ca. Donc, au plaisir de vous retrouver à une prochaine rencontre. Au revoir. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci.